Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Domaine du Possible. Aujourd'hui, nous allons entendre Carlos, qui m'a reçu dans son moulin, à Saint-Pré. C'est un lieu insolite, en pleine restauration, une vieille bâtisse étonnante et historique. C'est un lieu qu'il souhaiterait transformer en lieu d'échange culturel. Il y vit depuis son enfance et entretient un lien étroit avec l'eau et l'environnement qu'il a à cœur de sauvegarder. Depuis peu, une directive européenne exige des meuniers qu'ils opèrent des transformations, voire des suppressions, d'accessoires des moulins, afin de permettre aux poissons de circuler librement. Les délais sont très courts et de nombreux meuniers se sont groupés pour faire entendre leurs droits. C'est ce que nous allons entendre en deuxième partie d'émission. Pour l'instant, écoutons Carlos qui nous présente son moulin. Qu'est-ce qu'il a de particulier déjà ce lieu, qui est un peu le lieu de ton enfance, si j'ai bien compris?
C'est ça, oui. Bah, déjà, il a une histoire qui est assez longue, puisqu'on a retrouvé des documents qui datent de 1200 et des poussières, avec donc toute l'histoire qui est autour des moulins pour faire de la farine. Et puis... ce moulin a été transformé dans les années 1900 pour en faire une conserverie.
Donc toi, tu y as vécu enfant ou
C'est ça, ouais, je suis arrivé à l'âge de 11 ans avec ma famille. Mon père avait un projet de créer un lieu de la nuit, une discothèque, cabaret. Il avait l'intention même de s'étendre, enfin il avait des projets de fou.
Donc, quand on arrive, en fait, on voit une sorte de maison qui n'est pas finie, qui est énorme. Hein, donc ça fait assez fantôme, je trouve, parce que on sent qu'il y a une histoire, mais qui n'est pas terminée, quoi. Voilà. Donc il y a une partie qui est aménagée quand même.
Que j'ai restauré, ouais.
Tu as restauré, où ouais. Tu te sens bien d'y vivre.
Ah oui, complètement. Ouais. Depuis que je suis tout gamin, ouais, je rêvais d'avoir ma petite cabane. Ouais. Petite cabane à 3-4 étages, c'est quand même une belle cabane.
C'est une belle cabane, ouais. Ouais. Et il y a l'attrait de l'eau, certainement.
Ça, c'est venu au fil du temps. C'est vrai que quand gamin, certains gamins vont aller faire du vélo. Moi, je faisais des tours en barque. Je m'évadais, c'était l'aventure. On mettait les gilets de sauvetage et puis on allait faire une petite virée tout seul en barque. Ouais. Donc ça, c'est venu au fur et à mesure. Puis la passion du moulin, au fil du temps, déjà par rapport à la bâtisse, et ensuite par rapport à l'utilisation de ces accessoires, d'ouvrir et de fermer les vannes. Parce qu'on est tenu, on a une responsabilité en tant que meunier. On doit veiller à laisser passer l'eau quand il y a des périodes de crue. Donc il faut surveiller, il faut constamment être là, il faut enlever tout ce qui est en bâcle, des arbres qui viendraient se coincer, des arbres entiers, des fois c'est énorme, enlever des poubelles, enfin il y a du boulot, et puis toute la restauration au quotidien, enfin les petites choses qui pourraient endommager les accessoires. Donc ouais, au fur et à mesure, c'est comme si ce lieu était envoûté, comme si le moulin... Nous posséder à un moment donné. Voilà, on est envoûté par ce lieu.
Ça donne l'impression d'être responsable quand même localement d'un endroit.
Responsable, oui, par rapport à la gestion des vannages. Ensuite, je dirais que je suis un des responsables au niveau de l'entretien de la rivière, parce que c'est comme dans la rue, hein, à un moment donné, on voit plein de gens passer à côté d'un sac plastique. On passe à côté, on le ramasse, ce sac plastique. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens pourraient déjà dans le geste de pas jeter, mais aussi d'aller récupérer des poubelles. Je connais des gens qui font ça, qui font une petite balade en barque, puis hop, qui ramassent un peu tout ce qu'ils trouvent dans la rivière. Oui, là je me sens responsable. Ouais. Ouais. Ça peut être beau à voir, mais on voit énormément d'auréoles colorées sur l'eau, donc une grosse pollution. Il y a des choses de genre, il y a des anecdotes aussi. Bah, à l'époque de la tempête en 99, où un arbre est tombé, un arbre en bordure de rive, un gros arbre, qui a complètement bouché le bras de décharge. Donc l'eau essayait au fur et à mesure de passer, puis se retrouver avec les embâcles de plus en plus. Ça faisait comme une sorte de filtre. Et l'eau ne pouvant plus passer, elle est passée sous l'île. Et en fait, j'ai remarqué ça un jour en regardant par la fenêtre. J'ai vu sur le bras principal, j'ai vu un geyser d'eau. Alors c'est assez étonnant sur une eau qui est plutôt calme, on va dire, de voir un geyser qui faisait, je sais pas, à peu près un mètre, quoi. Ouais. Il y avait une puissance incroyable. Et en fait, l'eau ne pouvant plus passer par le bras de décharge, s'était infiltrée sous l'île et ressortait de manière puissante sur le bras principal. J'ai une autre anecdote. Un jour, le garde-rivière qui est passé, ce fameux arbre qui était coincé, et au lieu, pour enlever cet arbre, moi, je lui avais demandé s'il était possible, s'il y avait une pelle qui était là, une pelle mécanique, s'il était possible d'enlever toutes les poubelles qu'il y avait en amont, derrière l'arbre. Et pour un garde-rivière, ce gars m'a dit, mais non, bah écoute, t'as qu'à laisser passer, c'est pas grave. Ça m'a complètement choqué, quoi. Oui. Je lui ai dit, mais toi, tu fais un métier, garde-rivière, c'est comme quelque chose d'honorable. Enfin, je veux dire, c'est garde la rivière. Quand on m'a demandé d'enlever des bouts, il fallait qu'on fasse des expertises pour découvrir, pour essayer de voir s'il n'y avait pas du PCB, s'il n'y avait pas du plomb, s'il n'y avait pas des métaux lourds, chose qui était courante, en fait, dans la rivière, de retrouver ce genre de produits, sans parler des nitrates. Enfin,
donc l'eau déjà en amont, elle est polluée.
Elle est polluée, elle est extrêmement polluée.
Et pas par les moulins.
Et pas par les moulins. Les moulins, ça fait plus de 1000 ans qu'ils existent. Enfin, s'il y avait eu une dégénérescence des poissons, on le saurait déjà. Enfin, je veux dire, depuis bien longtemps. Enfin, on aurait. Enfin.
La proximité que tu as avec l'eau, ça aussi, ça crée un lien aussi avec la nature et avec la protection finalement de l'environnement qui est présent. Quoi.
La rivière au quotidien, voilà. Le charme, la beauté de ce lieu, c'est tous les jours merveilleux. Enfin, dès que je me mets à la fenêtre, je vois la rivière, je vois les arbres, je vois la nature, j'entends le bruit de l'eau. C'est quelque chose qui me plaît énormément et
qui te nourrit ou?
Oui, ça me nourrit, ouais. Oui. Chaque jour, je me dis, j'ai une chance incroyable de vivre au bord de l'eau. Et puis évidemment, ces anecdotes, c'est des choses qui sont ponctuelles et qui sont agressives et qui sont toujours, enfin, des petits drames.
J'habite à côté du paradis, un palais imparfait qui donne sur la guerre. J'ai un jardin qui donne sur l'envers du monde. J'ai planté mes rythmes créoles, des arômes polyrythmiques, des petites fleurs pentatoniques.
Les beautés sont si fragiles et si secrètes, ont leur façon de se taire, de lier toute magie à leur cause, ont leur façon de se taire.
À la fête des vivants, au règne des choses imparfaites, j'étais là.
Andonia, 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 Domenico.
Tu voulais qu'on parle un petit peu du combat que tu mènes avec les autres propriétaire de moulins.
Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est à l'initiative d'un bonhomme qui est passionné de moulins. Et ce gars-là, passionné de moulins, donc a décidé de créer une association syndicale et de réunir tous les propriétaires de moulins. Chose que moi, je souhaitais depuis longtemps, en fait. D'emblée, Charte Métropole, pour simplifier un peu les choses et parce qu'ils avaient des délais, ont proposé à tout, enfin c'est pas qu'ils ont proposé, c'est qu'au départ ils nous ont signifié que de toute façon un jour tous les accessoires des moulins dans la vallée de l'Eure allaient être retirés parce qu'ils étaient la cause de la dégradation de l'eau, en tout cas qu'ils ne permettaient pas par exemple aux poissons de remonter le cours de l'eau, qu'au niveau des limons il y avait pas une circulation libre des limons.
Il y a une part de vrai.
Oui, mais c'est simplifier un peu les choses. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, on n'est pas la cause de problèmes de pollution de l'eau, puisque je t'ai dit qu'il y a eu pas mal de pollution. Et un moulin, c'est plein de choses. Un moulin, c'est pas seulement que l'écologie. Mais bon, il y a l'écologie, mais il y a aussi le patrimoine. Et puis, il y a tout ce qui est économique. Et ça répond au projet de chacun, enfin, de chaque propriétaire. Chaque propriétaire a un projet différent, soit un lieu de vie, mais aussi un lieu économique ou culturel. En l'occurrence, M. Plage, lui, c'est un écomusée qu'il souhaiterait faire sur les moulins. Et moi, mon projet, c'est un lieu culturel qui rassemblerait énormément d'activités artistiques. La partie patrimoine, qui fait aussi partie de la culture, c'est que ces moulins, voilà, ont toute une histoire. Ils ont nourri la France pendant pendant un millénaire. C'est pas rien non plus. Voilà. Enfin, ouais. Donc il y a aussi sur ce domaine-là. Mais au niveau écologique, il y a différentes choses à prendre en compte. Le ministère de l'écologie et de l'énergie renouvelable, c'est ça, c'est un nom à rallonge, explique bien qu'il y a quand même quelque chose de compliqué avec les moulins. C'est qu'à la fois, effectivement, il y a une histoire de gestion pour répondre à la continuité écologique, une gestion des moulins, qui est un petit peu pas encore très bien coordonnée entre les propriétaires de moulins, et le fait que les moulins sont aussi générateurs d'énergie renouvelable. Voilà, c'est deux pôles qui sont hyper importants au niveau des directives européennes et nationales. Il y a le besoin donc de retrouver une eau saine et de retrouver une faune et une flore
préservée.
Et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui est gaz à effet de serre qu'on essaie d'éliminer, et donc on a aussi des délais pour pouvoir minimiser la création d'énergie sale. Voilà. Et donc aujourd'hui, la France s'emploie à mettre en place une quantité de on voit beaucoup d'éoliennes qui sont installées un peu partout, en tout cas là dans notre région, on voit des quantités qui sont réalisées, et à savoir que malgré tout, ce sera pas suffisant, et donc les moulins, eux, peuvent aussi aider
à produire
de l'énergie renouvelable. Donc tout d'un coup, étant conscient de ça, ils essaient de trouver un compromis, enfin ils essaient de trouver ils ne disent pas qu'il faudrait supprimer les moulins ou les accessoires des moulins. Il faut trouver un compromis. Mmh. Soit en générant des passes d'eau, soit une gestion des vannages. Enfin, y a plein d'autres solutions. Mais sauf que là, aujourd'hui, Chartres Métropole simplifie parce qu'ils ont des délais. Ils doivent répondre aux directives européennes d'ici, je ne sais plus, ça va être 2019. Auquel cas, ils paieraient des amendes. Enfin voilà, donc ils ont une pression et ils simplifient les choses. Donc nous, on n'est pas d'accord d'être aussi, déjà de pas avoir été concertés à la base, parce qu'on a des choses aussi à proposer. Enfin, on a quand même une connaissance de notre environnement, et puis de débattre avec ces gens qui avec des compétences.
C'est montrer qu'il y a une utilité, que ça va dans le sens aussi de l'avenir, puisque tu parlais des énergies renouvelables. Donc, en prenant conscience de tout ça, a priori, on devrait vous aider.
Ben oui, exact.
Ouais. Merci.
Je voudrais encore remercier Carlos pour ce moment de partage sur la vie au bord de l'eau, entre le charme de cet endroit et ses petits drames. Nous avons entendu aussi combien les meuniers avaient à cœur de créer des projets autour de leur lieu de vie, des projets culturels, historiques ou scientifiques. Si vous souhaitez plus d'informations, connectez-vous sur le site www.radiograndciel.fr, notamment un article paru dans votre agglo de novembre 2014 qui détaille les directives relatives à la continuité écologique dont parlait Carlos dans son entretien. On se retrouve dans un mois. pour de nouvelles histoires d'hommes et de femmes. À bientôt!